cours de philosophie première pour le père Philippe à Saint-Joseph, le 21 mars 85.
Si on regarde au point de vue histoire de la pensée, les différents grands moments où on a réfléchi sur la quantité, je crois qu'il faut d'abord citer les pythagoriciens. N'oubliez pas, avant Aristote, hein, les pythagoriciens. C'est curieux, les pythagoriciens, puisque c'est un courant d'ordre religieux. Les pythagoriciens sont avant tout des fraternités religieuses. Et ce sont en même temps des mathématiciens. C'est la première alliance entre la mystique et la mathématique. Une alliance très particulière, mais qui existe toujours. Je me souviens que la première fois que j'étais en Grèce, allant de Fribourg, on était invité, c'était peu de temps après la guerre, on était invité comme faculté de philosophie à Athènes. On a vu les professeurs de mathématiques et parmi eux, il y en avait un qui était très particulier, qui tout de suite s'est adressé à moi en me disant « Est-ce que vous voudriez bien que nous fassions une promenade ?» Pour comprendre un peu Athènes, j'ai dit oui, je ne demandais pas mieux. Puis alors il m'a indiqué les heures qu'il fallait regarder Athènes, au coucher du soleil, à tel endroit, dans une vieille ruine d'un vieux couvent. Alors on a fait cette promenade ensemble. C'était vraiment un pythagoricien. Professeur de mathématiques, mais pythagoricien, c'était tout à fait le pythagoricien. Puis alors, quand on s'est quitté, il m'a dit « Merci, c'est rare de rencontrer une âme ». J'étais très heureux. J'étais très heureux de cette rencontre. C'était vraiment un pythagoricien. J'ai vu que ça demeurait. Je n'ai pas vu d'aristotélicien, mais j'ai rencontré des pythagoriciens. Et ça demeure. Cette alliance très particulière, mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose de très particulier de voir le lien entre une aspiration mystique. Les pythagoriciens, c'est une aspiration mystique. Ce sont des fraternités religieuses, des petites fraternités, petites communautés, avec une ascèse très particulière, une ascèse qui va jusqu'à le point de vue de l'alimentation. Ils sont très attentifs à ça. Il y a des aliments qu'il ne faut surtout pas prendre, et des aliments qui sont bons. Il faudrait retrouver la cèse pythagoricienne, n'est-ce pas, pour cette fraternité religieuse que nous représentons. Alors nous aurions comme ça une ascèse propre par rapport à l'alimentation, des légumes qu'on ne doit surtout pas prendre, et d'autres au contraire qu'on doit prendre, qui sont excellents, parce que ça allège l'esprit, et d'autres au contraire alourdissent. Et puis alors, cette vision du monde par le point de vue des nombres. Alors comprenons toujours bien, ce n'est pas premier, c'est pour ça que quelquefois on comprend très mal les pythagoriciens. Les pythagoriciens, c'est avant tout une vision religieuse du monde. Et il faut un support intellectuel. Et ce support intellectuel est donné par les nombres, par la géométrie et les nombres. C'est donc la découverte, j'allais dire, d'une certaine finalité, et dans cette finalité, une certaine structure. Et cette structure est d'ordre quantitative. Ce sont les nombres figures qui sont les principes des choses. qui sont les fondements. Les chiffres étant considérés comme ce qui donne à l'être sa détermination. Tout chiffre impliquant une limite et une matière illimitée. Les nombres figurent sont alors identifiés à la substance même de la réalité. C'est la première manière, je crois, de la découverte de la cause formelle. Et à ce point de vue-là, c'est très important et très intéressant de comprendre que c'est à travers un grand élan religieux qu'on découvre la cause formelle. Vous voyez, la philosophie est née à l'intérieur de traditions religieuses. Et je crois que ce qui fait l'infécondité de notre philosophie moderne à partir de Descartes, c'est qu'on veut une philosophie sans tradition religieuse. Alors, ce sont des fruits secs qui n'ont plus de vitalité. Et je crois que ce que nous devons redécouvrir, sans confondre, hein, c'est qu'une pensée vraiment philosophique ne peut naître qu'à travers un grand amour, un grand élan d'amour, donc une grande mystique. Souvenez ce que disait Malraux, et je crois que là il avait saisi quelque chose de très vrai. Ça ne veut pas dire qu'on doit être disciple de Malraux, mais Malraux avait saisi des choses extrêmement intéressantes. Malraux disait, par rapport à notre culture d'aujourd'hui, à la fin de sa vie, je l'ai entendu le disant à la télévision, si il n'y a pas une grande mystique qui se lève pour nous et qui redonne vie au monde, je ne donne pas 30 ans avant la destruction de notre planète. C'était à la fois prophétique, en montrant qu'une civilisation qui se matérialise se détruit et se suicide. Alors s'il n'y a pas un grand renouveau mystique, et ce renouveau mystique pour nous, peut-être que par Saint Jean, je ne dis pas la communauté, mais Saint Jean, l'apôtre bien-aimé. Ça ne peut être que par Saint Jean. Et c'est cette mystique qui doit nous redonner le sens de la qualité, de la détermination, et par le fait même, le sens d'une structure fondamentale qui est mathématique. Le chiffre d'or, hein, des pythagoriciens. La proportion, l'harmonie. Et Aristote, reprenant à la suite des pythagoriciens cette grande vision, il y a un passage très très beau d'Aristote qu'il ne faut jamais oublier à propos des mathématiques, c'est dans le livre Nu de la métaphysique, Nu 2089b36 et suivant, où Aristote dit que les mathématiques sont finalisées par le beau, c'est-à-dire par l'harmonie et la proportion. Alors là, il y a une vision, vous voyez, qui est très très particulière, c'est que les mathématiques donnent le sens de la causalité exemplaire. Et c'est vrai, je crois, ça. Et à ce point de vue-là, c'est très intéressant de voir quand même, l'autre jour, je vous montrais surtout l'aspect plus rude de la quantité liée au conditionnement. Je crois qu'il ne faut pas oublier cet autre aspect, qui est complémentaire du reste, ce n'est pas en contradiction, mais qui fait que les mathématiques, la quantité, est comme le support de notre monde physique et qui va nous donner comme une disposition vers le point de vue de la détermination et de la finalité. C'est le propre du domaine mathématique. C'est le domaine de la figura. Et c'est ça que saisissent les pythagoriciens. C'est la découverte de la figura. Notre monde est un monde de figures. Au très grand sens, vous voyez, pas la figure uniquement, l'aspect extérieur, mais que les cristaux, toute la végétation, toutes les toute la végétation et les jusqu'aux feuilles, aux branches, tout est proportionné dans la nature. Et il y a une proportion géométrique dans la nature. C'est très vrai quand vous regardez un arbre. Un arbre surtout dépouillé, vous voyez, c'est l'avantage. Quand l'hiver donne cela, quand vous regardez une forêt l'hiver, hein, où c'est dépouillé complètement. Alors il y a toute la structure qui est donnée jusqu'au corps de l'homme. Vous voyez, Le Corbusier a voulu redécouvrir, c'est le mérite de Le Corbusier, il a voulu redécouvrir cette harmonie à partir du corps humain. Et Le Corbusier est très en opposition vis-à-vis du système métrique, qui est abstrait et qui nous fait quitter cet aspect pythagoricien, il ne le nomme pas, mais au fond c'est ça, cet aspect pythagoricien de l'harmonie du monde. Et l'harmonie suprême, c'est le corps humain. Et il voulait tout reprendre avec cette perspective. Alors, il a peut-être un peu trop systématisé, je crois. Mais il y avait une intuition qui était juste et qui était intéressante, de voir que l'architecture doit se faire en fonction du corps humain. Alors, l'architecture religieuse se fait en fonction du cosmos créé par Dieu. C'est une grande vision, et la quantité donne quelque chose de cela. C'est un support tout à fait code naturel à notre sensibilité et à notre imagination. Donc n'oubliez pas les pythagoriciens comme première découverte de la structure du monde, et c'est intéressant d'essayer de comprendre ce grand mouvement de Pythagore qui se retrouve, n'oublions pas, dans un aspect de Parménide et de Platon. Il y a des parentés. Alors évidemment, Parménide, c'est avant tout le point de vue de l'être qui n'est pas divisible. Parménide dira que l'être qui n'est pas divisible, étant partout le même. À ce point de vue-là, c'est intéressant, c'est qu'il saisit l'être comme le dépassement de la quantité. Puisque, nous verrons, le divisible, en définitive, c'est le domaine de la quantité. Platon aussi est en dépendance de tout le point de vue pythagoricien. Dans le Timée, il souligne que la forme du corps possède toujours l'épaisseur qui enveloppe nécessairement la nature de la surface, opposant ainsi le monde des corps à celui des formes idéales. Les formes idéales sont conçues comme causes exemplaires. Et donc, on pourrait dire, dans la vision de Platon, vous savez bien, les mathématiques jouent un rôle essentiel. Nous ne pouvons pas être philosophes sans être mathématiciens. Pour Platon, pas pour Aristote, mais pour Platon, les mathématiques jouent le rôle de médiation. Nous passons du monde physique, sensible, corruptible, au monde des formes idéales, par les mathématiques, par le nombre. Et donc, les mathématiques sont nécessairement la connaissance médiatrice qui conduit à la philosophie, qui conduit à la dialectique. Les mathématiques demeurent dans l'ordre des hypothèses. C'est pas si bête, hein, c'est très bien vu. C'est le domaine des possibles qui nous permettent de dépasser le monde du mouvement. Et alors, ce domaine des hypothèses ne nous donne pas encore le nécessaire absolu. Le nécessaire absolu, ce sera en philosophie, qu'on découvrira par la dialectique et par les formes idéales. Alors, les mathématiques, vous voyez, jouent ce rôle, parce que c'est lié à la quantité, jouent ce rôle de médiation entre le monde sensible, corruptible, sublunaire, et le monde des formes idéales. Aristote, face à Platon, ne dira pas la même chose. C'est ça qui est très curieux. Vous voyez, il y a là une vision aussi. Bon, il faut saisir Aristote et Platon toujours dans un dialogue permanent. N'oubliez jamais ça. Et c'est vrai, au point de vue historique, c'est quand même deux grandes physionomies de la pensée. Et c'est intéressant de voir qu'au point de vue quantitatif, au point de vue de la quantité, Platon et Aristote ont deux positions tout à fait différentes. Oui, la position pythagoricienne, la figure, c'est l'incarnation de tout l'aspect religieux sur un monde qui fait partie nécessairement de notre milieu religieux. Un homme religieux doit assumer le monde pour l'offrir, pour faire que ce monde soit offert au Créateur. C'est comme ça que les étoiles glorifient le Seigneur. Si vous ne l'assumez pas dans votre adoration, les étoiles ne glorifieront jamais le Seigneur. Les pythagoriciens avaient très fort ça. Et vous retrouvez ça dans Théilhard. Il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup, beaucoup dans... Pour comprendre Théilhard, il faut regarder beaucoup au point de vue du pythagoricien, parce qu'il y a cela. Et c'est très souvent, vous voyez, les pythagoriciens sont très souvent pour des savants. Le passage, ça, pourquoi Théilhard parle-t-il et les savants l'aiment-ils? C'est parce que c'est du pythagoricien. Alors on a l'avantage par là d'assumer tout le monde. Et de l'assumer pour l'offrir, pour faire que l'adoration est cosmique. Parce que je ne peux pas adorer sans que tout le monde soit remis à Dieu. Et c'est vrai, dans une vision proprement religieuse, il y a ça. Il y a toujours cette espèce de lien entre l'homme qui adore et qui remonte jusqu'au Créateur et le milieu dans lequel il est, qui doit être offert et présent. Ça, c'est très pythagoricien. Et c'est l'attitude religieuse très fondamentale. Et là, le domaine mathématique, le domaine de l'harmonie, du rythme, joue beaucoup. En chacun d'entre nous, il y a un petit pythagoricien. Découvrir. Parce que c'est vrai, en chacun d'entre nous, il y a cette attitude religieuse un peu panthéiste. On est lié au monde, on ne peut pas ne pas être lié au monde. Et il doit remonter jusqu'à Dieu. Alors, c'est très intéressant de voir cette première forme, et dans tout panthéisme, on retrouvera ce point de vue pythagoricien. Ce qu'on a reproché à Théilhard, c'est d'un certain panthéisme. Bon, je ne crois pas que Théilhard est panthéiste, mais dans sa formulation, on peut dire que de temps en temps, on retrouve cette attitude, vous voyez, de pythagoricienne. Alors, vous avez donc première attitude, l'attitude pythagoricienne, l'aspect religieux et la manière de dominer le monde par les mathématiques. La manière de comprendre le monde par les mathématiques et en même temps de l'offrir, de la remonter vers Dieu. La matière platonicienne qui fait que nous avons le mouvement, le domaine proprement mathématique, l'être mathématique, qui est un intermédiaire, et puis la philosophie. La philosophie, la dialectique, c'est des formes en soi. Aristote fera, lui, au contraire, le mouvement, le vivant. Les mathématiques sont mises entre parenthèses. On n'a pas besoin de passer par les mathématiques pour rejoindre la philosophie première. Même pour Aristote, les mathématiques jouent toujours un rôle de séduction qui risque de nous écarter. C'est très difficile de dépasser les mathématiques quand on a été séduit par les mathématiques. C'est très vrai. C'est parce que c'est une forme de pensée qui est tellement comme naturelle à l'homme. Et c'est ce domaine de la quantité, justement. C'est tellement difficile de... Alors, Aristote, je le mets tout de suite entre parenthèses. C'est la très grosse différence. Et c'est là où on peut dire qu'il y a une espèce de rivalité avec Platon. C'est dans le domaine mathématique qu'on peut voir les deux attitudes différentes. Le point de départ, le point de vue du mouvement, nous le retrouvons. Alors, évidemment, il est conçu tout à fait différemment, parce que pour Platon, il est d'une certaine manière abandonné. Pour Aristote, il ne peut jamais être abandonné, puisque c'est l'expérience. Toutes nos expériences sont liées au mouvement. Les matériaux, les passions du mouvement au vivant, et là, notre mouvement, la philosophie première. Alors, à la place d'être des formes en soi, c'est l'être. Mais comme différence, c'est, je crois, dans la pensée d'Aristote, c'est le vivant qui remplace les mathématiques. Je crois bien, si on est attentif à la pensée d'Aristote, je crois que c'est le vivant qui dit ça. Le père d'Aristote était médecin. Les médecins sont toujours très attentifs au vivant. C'est le domaine propre de la médecine, c'est le vivant. C'est le corps vivant. Et c'est l'art. S'ils sont un peu philosophes. C'est l'âme qui anime. Alors évidemment, c'est très différent du domaine mathématique. Le domaine mathématique n'étant jamais un intermédiaire, mais étant un sous-bassement qui permet de comprendre que le domaine de la matière devient par là intelligible. Mais il devient intelligible par un apport de l'intelligence. C'est ça qui est très curieux. La position d'Aristote par rapport aux mathématiques est très très intéressante. C'est que le monde de la quantité n'est intelligible que par l'intelligence qui s'applique dessus. On allait dire, vous voyez, le domaine kantien un peu. Les mathématiques, c'est Kant est vrai pour les mathématiques, d'une certaine manière, parce que j'ai entendu une conférence d'un polytechnicien sur Kant en disant les mathématiques modernes montrent que Kant était dans l'erreur. C'est intéressant de voir ça du reste. Démolissant toute la pensée de Kant par les mathématiques modernes. Pourquoi ? Parce que Kant, au fond, avait appliqué au domaine philosophique une certaine forme de pensée mathématique. Oui. Parce que le mathématicien, ce que dit Aristote, il dit que c'est les mathématiques, c'est l'abstraction. C'est-à-dire, c'est l'intelligence qui nécessairement donne aux donne à l'être quantifié son intelligibilité. On essaiera de voir ça, parce que c'est très intéressant par rapport à la quantité. Bon. Voilà, comprenez ce petit schème. Aristote va essayer, alors là, on va s'arrêter quelques instants sur la manière dont Aristote regarde la quantité. Aristote commence par affirmer que la quantité est soit discrète, comme par exemple le nombre et le discours, soit continue, comme par exemple la ligne, la surface, le solide, le temps et le lieu. C'est très intéressant de voir que le temps et le lieu sont considérés comme le point de vue du continu. Oui. Et les exemples sont intéressants à voir. Le discours, le logos, le discours, c'est la quantité discrète, parce qu'il y a des arrêts constants dans le discours. Et il précise d'une part, elle est constituée de parties ayant une position les unes à l'égard des autres. Ça, c'est le propre de la quantité continue. Il y a une position. La quantité continue implique une position des parties les unes à l'égard des autres. D'autre part, elle est constituée de parties n'ayant pas de position les unes par rapport aux autres. La quantité discrète. Autrement dit, dans le domaine quantitatif, on distingue tout de suite deux types d'abstractions. Et c'est ça l'intérêt. Il y a deux types d'abstractions. Il y a l'abstraction. Ce serait à mettre en parallèle, vous voyez, avec ce que... Pour y réfléchir, hein. Je ne donne pas de solution, mais pour y réfléchir, première abstraction, l'abstraction au niveau du continu. Quand le continu, pensez la grandeur. C'est le continu. Alors, vous avez une première abstraction. Et cette abstraction ne supprime pas l'aspect de la continuité, de la juxtaposition et de la position. Tandis qu'au contraire, seconde abstraction mathématique, le nombre. Le nombre est plus abstrait que la grandeur. C'est la quantité discrète. Et la quantité discrète implique une abstraction nouvelle. Autrement dit, un apport de l'intelligence par rapport au monde physique, au monde quantifié. C'est une abstraction qui vient s'ajouter. Donc, un second type d'abstraction. Alors, faites le parallèle entre ce que saint Thomas appelle l'abstraction universelle et l'abstraction formelle. Je me demande s'il n'y a pas un parallélisme à faire entre les deux. L'abstraction universelle, c'est l'abstraction formelle, c'est blanche. N'oubliez jamais ça. C'est SC. L'abstraction formelle, c'est toujours une abstraction au carré. L'abstraction universelle, c'est celle que vous faites spontanément sans savoir. C'est vrai, quand vous dites chat. Abstraction, appris le mot et puis après vous l'appliquez. C'est l'universel. C'est l'apparition de l'universel. Alors c'est curieux parce qu'il y a quand même quelque chose de parallèle entre ces deux types d'abstraction qui fait que ici la position est mise entre parenthèses. C'est pour ça que j'ai une abstraction au carré. Ça, ce sera à réfléchir au point de vue critique. Et je crois que c'est intéressant à découvrir ces-là, parce que ça fait partie, vous voyez, de toujours notre intelligence, même dans le domaine quantitatif, où le domaine quantitatif, notre intelligence risque toujours de tomber dans l'uniformité, dans l'aspect univoque. La quantité est source d'univocité. Même dans ce domaine-là, il y a encore une analogie. Pour montrer que l'univocité à l'état pur n'existe jamais. L'univocité à l'état pur n'existe jamais. Alors, même dans le domaine quantitatif, qui est source d'univocité, ça c'est bien évident que la quantité est source d'univocité, nous le verrons au terme, ça. La qualité est source de l'analogie, parce que c'est le plus et le moins. De la même forme, la qualité est source de l'analogie. Quelqu'un qui a un esprit qualitatif comprend tout de suite l'analogie. Quelqu'un qui est beaucoup plus lié à la quantité. C'est deux formes d'esprit différents, à droite, à gauche, les boucs et les brebis. N'est-ce pas ? Alors vous voyez bien, à droite et à gauche, vous avez d'un côté les êtres qualitatifs, l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. Hein. On voit très très bien ce que c'est. Alors, ça revient toujours. Alors, il y a des esprits qualitatifs et des esprits quantitatifs. Il y a des gens qui aiment la qualité du vin et les autres qui aiment la quantité du vin. Ça n'a aucune espèce d'importance. C'est que, et il n'y a que Dieu agissant miraculeusement, qui fait que la quantité et la qualité sont ensemble. Ça a été le rêve d'Hegel. Mais il n'a pas réussi, parce qu'il n'est pas Dieu. Et au fond, c'est le rêve constant de l'esprit humain, de pouvoir unir qualité et quantité. Et de faire qu'on ne soit pas obligé d'opter. Venez, Rachel et Léa, connaissez-vous, hein? C'est quand même la quantité et la qualité, c'est bien évident. Alors on voit bien que c'est toujours le rêve. On voudrait bien les unir, hein, mais pas du tout. Il y a l'oncle qui est là, le père qui fait le choix pour l'épouse. Alors on voit bien, qualité et quantité, c'est la source donc de l'uniformité. Et que malgré l'uniformité, l'intelligence, qui est qualitative. Dans l'intelligence, il n'y a aucune quantité. Et l'intelligence liée à la sensibilité et à l'imaginaire se fourre dans le domaine quantitatif. Très, très bon. Et alors, même à l'intérieur de la quantité, vous retrouvez une certaine analogie entre la grandeur et le nombre. Deux types d'abstraction. Et donc, même à l'intérieur d'une certaine univocité, d'un poids d'univocité, vous retrouvez une certaine analogie. Ce serait intéressant de, justement de voir l'analogie fondée sur la qualité et l'analogie fondée sur la quantité. Ce n'est pas le même type d'analogie. L'analogie quantitative est une analogie forcément beaucoup plus lourde. Et l'analogie qualitative est beaucoup plus aérée. Mais peut-être qu'il faut d'abord passer par l'analogie quantitative avant de comprendre l'analogie qualitative. Étant donné qu'on est toujours un peu platonicien. Toujours un peu platonicien. Surtout quand on est fatigué. Alors on est toujours un peu platonicien. Le platonicien revient toujours. Et le platonicien fait que les mathématiques sont intermédiaires. Alors si les mathématiques sont intermédiaires, vous comprenez, il faut passer par l'analogie quantitative avant d'arriver à l'analogie qualitative. C'est pas entièrement vrai. Mais de fait, étant donné notre conditionnement humain, et Platon nous montre bien ça, il nous montre le conditionnement humain qui de fait passe par le domaine quantitatif, que je ne peux pas m'abstraire complètement du domaine mathématique, qui est le domaine justement où je peux saisir parfaitement tout ce domaine propre de la quantité. Donc, Aristote précise, d'une part, elle est constituée de parties ayant une position, ça c'est le continu, elle est constituée de parties n'ayant pas de position les unes à l'égard des autres. La quantité du nombre discrète. Les parties du nombre n'ont aucune limite commune où les parties soient en contact. Par exemple, 5. Partie de 10 n'a aucune limite commune avec l'autre partie de 10. 5 et 5 ne se touchent pas. Essayez de comprendre ce que ça représente, le nombre. Ça a tracassé tous les anciens, on comprend très bien. Vous commencez à compter avec des petits cailloux. C'est comme ça que vous faites. Pour qu'un gosse comprenne, 1, 1, 1, vous mettez un petit caillou, ça s'additionne. Mais voyez, ça, c'est du continu. Ça prouve que votre intelligence n'est pas encore arrivée à la quantité discrète. Et des quantités d'individus restent au niveau continu. Ils n'arrivent pas à la quantité discrète. Ils ont besoin toujours de situer, d'avoir toujours un schème. Ils n'arrivent pas à dépasser le schème. Le schème, c'est quantitatif. Le schème, c'est le continu. Alors ça, c'est très très joli. C'est très très joli cette manière dont Aristote montre que les parties du nombre n'ont aucune limite commune. Où les parties soient en contact. Le contact, c'est le continu. Et c'est très important ça, parce que pour qu'il y ait un mouvement, il faut un contact. Et le contact est de l'ordre du continu. Oui, dans les disputes, hein, dans les discussions, s'il n'y a pas de contact, l'un discutera dans la Lune et l'autre discutera sur la Terre. Aucun contact. Le contact, c'est le point de vue du continu. Si vous vous mettez tout de suite dans l'abstraction discrète, pas de contact. Vous êtes les uns à côté des autres. C'est une discussion de sourds et de muets. Quantité discrète. C'est très, très intéressant de voir que dans la quantité discrète, il n'y a pas de continu. Il n'y a pas de contact au sens fort. Ces deux cinq, donc cinq et cinq, ne se touchent pas. Ces deux cinq sont fruits d'une division et ont en eux-mêmes leur unité. Alors, c'est aussi quelque chose de très important qu'Aristote souligne, que le continu, c'est là où la division se fait le mieux. Vous divisez le continu. Et le fruit de la division donnera le nombre. La division est une opération de l'intelligence. C'est l'intelligence qui divise. La division, c'est le premier fruit de la négation. Et c'est à partir de la négation et de la division que le nombre apparaît. Cette chose très curieuse. Vous voyez comme c'est proche de la dialectique. Et comment la dialectique naît de la quantité. C'est le lien entre la grandeur et le nombre qui nous fait comprendre le point de départ de la dialectique. Et si Platon ne dépasse pas la dialectique, c'est qu'il considère que les mathématiques sont l'intermédiaire entre le mouvement et la philosophie. Et c'est ce qui fait comprendre que Platon, tout en ayant une certaine pensée analogique, on ne peut pas nier, c'est un artiste, et les artistes ont toujours le sens de l'analogie, mais les artistes ont le sens d'une analogie qui reste dans l'ordre de la similitude, et le support de leur analogie sera très souvent la dialectique. Alors la naissance de la dialectique, elle est au niveau des mathématiques, parce qu'elle est au niveau de la quantité. Pourquoi ? Parce que c'est le passage du continu au discret. Et alors là, on voit l'apport de la division. La division est l'âme de la dialectique. Ça, c'est la division et l'âme de la dialectique. Ça, c'est vous divisez un tout en deux parties. Et vous avez thèse et antithèse. Il n'y a pas de dialectique s'il n'y a pas la division. Et là où il n'y a pas, vous l'amenez. L'intelligence divise. C'est extraordinaire. Ça. L'intelligence divise. Et l'Esprit Saint fait l'unité. C'est très curieux, ça. C'est très très curieux et c'est très intéressant de voir la naissance de la division. Et la naissance de la division, vous les voyez, grandeur et nombre. Ce passage entre les deux. Vous ne pouvez pas voir la quantité discrète sans voir la division. Et la division, c'est l'intelligence dans son attitude, j'allais dire, fondamentale et selon son conditionnement humain. Selon notre conditionnement humain, nous divisons. Il faut être extrêmement pénétrant, et peut-être ce n'est qu'au moment où on découvre la finalité, que l'intelligence humaine dépasse la division, pour entrer dans la contemplation. Tant qu'on n'est pas entré dans la contemplation, notre domaine ordinaire, c'est la division. On oppose. On divise. Et par là, on domine. C'est une manière de dominer la division. C'est une manière c'est la première manière de diviser, de dominer. Divisez et vous régnerez. Parce que en divisant, vous faites ensuite la synthèse et vous régnez dans la synthèse. Mais il n'y a pas de synthèse sans division. Et sans la division d'un tout en deux parties. C'est pour ça que dans toute pensée dialectique, il y a d'abord ce tout qu'on divise pour arriver à dominer ensuite. Alors, c'est intéressant, parce que c'est intéressant de voir qu'Aristote, qui montre que la dialectique, pour lui, elle existe, la dialectique, mais elle existe au niveau rhétorique. C'est le rhéteur qui est un dialecticien. Et il est un dialecticien pour régner et persuader. C'est la grande séduction. C'est de, par le point de vue de la division, vous pouvez mieux comprendre la manière dont on domine. Alors, Aristote souligne que le domaine premier de la division, c'est le domaine de la grandeur continue. C'est là où l'intelligence comprend qu'en divisant, on actue. première découverte de l'acte, la division. Vous actuez ce qui est capable d'être divisé. Alors, progressivement, Aristote va montrer que le domaine de la quantité, c'est le divisible. Cette chose curieuse, c'est le divisible. Le divisible appelle l'actuation. Et qu'est-ce qui actue le divisible? C'est l'intelligence. Vous voyez, l'idéalisme qui naît à partir de la division. Voyez la dialectique qui naît à partir de la division, dans la mesure même où l'intelligence veut dominer le divisible. Elle le divise, c'est la seule manière pour elle de le posséder. Les parties du nombre sont toujours fruits d'une division, mais en ce qui concerne les parties de la quantité continue, par exemple la ligne, c'est l'inverse. Elles ont une limite commune à laquelle les parties se touchent. Alors ça, c'est la synthèse. Première image de la synthèse. Le continu. Pour la ligne, c'est le point. Pour la surface, la ligne. Pour le solide, la surface. Alors, donc ça, c'est la première regard d'Aristote dans les catégories. Et c'est très intéressant de voir cette première approche du domaine de la quantité dans le domaine des catégories. Alors, qu'est-ce que ça représente, le domaine de la quantité? Quantité continue, quantité discrète. Nouvelle, il ne précise pas plus, hein, il décrit. Mais ce qui est intéressant, c'est l'apparition de la division dans le domaine de la quantité. Je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à saisir. Pour ceux qui s'intéressent au cheminement de la vie de l'intelligence, pour ceux qui s'intéressent à l'origine de ce que représente le point de vue de la pensée dialectique, c'est lié à la division. Que l'intelligence divise pour régner, pour dominer, c'est bien évident. Ceci, c'est un fait. Il n'y a qu'à réfléchir quand vous divisez. Quand vous divisez un tout. Le tout n'est pas l'unité. Vous voyez, le tout, c'est encore une unité capable d'être divisée. Tandis que quand vous arrivez à l'unité plénière par la finalité, ce n'est plus divisible. Alors on voit toutes les applications extraordinaires dans le domaine humain, de voir que lorsque l'unité est encore à l'état embryonnaire, elle est un tout. Assemblée. Quand l'unité est parfaite, c'est par la finalité que se fait l'unité. Et par la finalité, c'est l'amour. C'est l'amour qui fait l'unité. Et quand l'unité existe, il n'y a plus possibilité de division. L'unité est au-delà de la division, au-delà du divisible. C'est pour ça qu'on dira que l'un est indivisible. Tandis qu'au contraire, le tout est divisible, parce que c'est le domaine de la quantité qui domine encore. Nouvelle précision d'Aristote, dans les catégories. Hein. Domaine des catégories, je vous dis, il faut. Les catégories, c'est la première chose qu'on doit regarder au point de vue philosophique. Hein. Et il faut tous avoir lu les catégories d'Aristote en première année de philosophie, même si on n'y comprend rien. Vous les lirez en seconde année et vous lirez en troisième année, et puis au bout d'un certain temps, vous comprenez que les catégories, c'est quelque chose d'extraordinairement intelligent. Mais c'est pré-philosophique, mais c'est très intelligent. Heureusement qu'on est intelligent avant de faire de la philosophie, n'est-ce pas? Alors c'est pré-philosophique, les catégories. Certaines quantités sont constituées de parties ayant une position les unes à l'égard des autres. Par exemple, les parties de la ligne ont une position les unes par rapport aux autres. Mais il y a d'autres quantités qui sont constituées de parties n'ayant pas de position les unes à l'égard des autres. Par exemple, le nombre et le temps. Aucune des parties du temps n'est permanente. Or, ce qui n'est pas permanent ne peut évidemment pas avoir de position. Alors, il y a l'idée de la permanence liée à la position. C'est la question de la position. Qu'est-ce que c'est que la position dans le domaine de la quantité? Vous voyez, le divisible et la position. Et la position ne fait pas partie de la quantité, puisqu'on peut l'abstraire. Alors que, schématiquement, toujours dans l'ordre de l'imagination, tout ce que vous imaginez implique une position, une représentation quantitative. Tout ce que vous imaginez. Alors, l'intelligence peut arriver à abstraire de ce domaine de la position pour arriver à un domaine du divisible beaucoup plus pur, et qui est le fruit d'une nouvelle, qui est le fruit de cette seconde abstraction qui est le nombre, et qui fait comprendre comment on peut dépasser le domaine de l'imaginaire pour arriver à une quantité intelligible. C'est ce que dira saint Thomas. À travers les Arabes, ça c'est Avicenne. Avicenne distingue deux quantités, une quantité sensible, une quantité intelligible. La quantité sensible, c'est le continu. La quantité intelligible, c'est le nombre. C'est l'intelligence qui s'est emparée profondément de la quantité, pour abstraire de la quantité quelque chose à un niveau qui est purement intelligible. Le nombre, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui saisit le nombre et qui est capable d'abstraire de la position. Pour arriver alors en dernier lieu, alors ce sera la découverte d'Aristote, pour arriver en dernier lieu à dire la quantité est commune.